France Culture.
Les nuits de France Culture.
Les camps de concentration étaient avant tout des camps de la mort. Le projet nazi était celui d'une extermination massive, soit par des moyens industriels comme les chambres à gaz, soit par l'exploitation jusqu'à la mort des déportés comme force productrice. Les conditions de vie exécrables, la violence quotidienne, la maladie et les exécutions sommaires laissent planer le spectre de la mort à chaque instant de la vie de ces déportés. Les rares survivants, que nous n'aurons pas l'indécence d'appeler chanceux, ont fait de leur mieux pour témoigner, pour tenter d'exprimer l'inconcevable horreur des camps et rendre hommage à leurs camarades morts. Ce 10e de 27 épisodes de la série « Le monde concentrationnaire » est un peu différent des autres. Plutôt que de proposer des témoignages directs de ces rescapés, il est composé de lectures choisies d'œuvres de celles et ceux qui sont morts dans les camps. Car parmi ces morts, il y avait évidemment des artistes, des poètes, des écrivaines et des écrivains, dont il est essentiel que l'œuvre soit lue et entendue. On entend donc dans cet épisode des textes de Robert Desnos, René Blieck, Denise Clairoin ou encore Victor Bache, lu entre autres par Michel Bouquet, Jean Negroni et Marie Renaud. Une émission de Paul Thillard, réalisée par Alain Barou, diffusée pour la première fois le 7 mai 1965 sur France Culture.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire.
Hors du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Robert Desnos.
France Culture vous invite à écouter une suite d'émissions composées pour le 20e anniversaire de la libération des camps, Le monde concentrationnaire.
Aujourd'hui, par Paul Thillard, La pensée détruite. Choix de texte écrit par des déportés morts dans les camps de concentration.
Le 8 mai 1945, dans la soirée, au quartier général du maréchal Jukow, installé à Karlhorst, faubourg de Berlin, se joue le dernier acte de la guerre en Europe. La veille, à Reims, à 2h41, l'Allemagne avait capitulé. La délégation allemande était conduite par le général Jodl, la délégation alliée par le général américain Bedell Smith, adjoint d'Eisenhower, le général français Sevez et le soviétique Souslaparov avaient également signé à titre de témoin. Le 8 mai, il s'agit de ratifier au quartier général soviétique la capitulation de la veille. Il s'agit surtout de montrer aux Allemands, comme au monde entier, que l'Allemagne hitlérienne a capitulé devant tous les alliés réunis. Le maréchal Keitel y dirige la délégation allemande. Keitel, le plus stupide des reîtres qui, depuis 1933, sut obéir toujours aveuglément aux ordres du Führer. Keitel, qui couvrit pendant 5 années de son autorité tous les massacres. Keitel, qui signa le décret Nacht und Nebel, décret qui envoya à la mort lente des camps des millions d'Européens. Keitel, l'un des criminels pendus à Nuremberg.
Le 8 mai, donc, les canons se taisent sur une Europe stupéfaite de retrouver la paix. La vie renaît. Et malgré les ruines accumulées, la joie gonfle les cœurs. On chante et on danse à Moscou, à Londres, à Paris. Le cauchemar est terminé. La mort pourtant frappe encore. Les camps de concentration dans lesquels moururent 25 millions d'Européens ont ouvert leurs portes, libérant quelques centaines de milliers de rescapés. Mais d'autres, incapables de se mouvoir, achèvent d'y mourir. Le 8 mai, ce même jour où les canons se taisent, des milliers d'agonisants achèvent ainsi leur martyre. Libéré du camp de Floa, Robert Desnos a été transféré au camp de Térézine, en Tchécoslovaquie, où sont rassemblés les Tifiques. Il fait signe à un jeune infirmier tchèque, Joseph Stuna, qui le soigne avec dévouement depuis plusieurs jours. L'infirmier se penche. Robert Desnos lui donne maladroitement écrit au crayon sur une feuille grise un poème. Son dernier poème. Un poème dédié à Yuki.
J'ai rêvé tellement fort de toi. J'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre, qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée.
Le poète assassiné qui devient une ombre, plus qu'une ombre, une âme pour continuer à vivre dans la vie ensoleillée des autres, n'est-ce pas le plus pur symbole, le plus bel espoir qui puisse nous être donné, né de l'ignominie des camps où Hitler rêvait d'anéantir tous ceux qui n'acceptaient pas sa tyrannie, tous ceux pour qui amour et liberté gardaient leur éclatante signification. La beauté était plus forte que la déchéance. L'amour survivait à la haine. Et comment ne pas évoquer également cet autre poème du poète belge René Bliek, déporté de Neuengamme, mort au cours de l'évacuation du camp.
Iras-tu lentement dans un lieu solitaire, t'agenouiller sans bruit et prier un instant? Mêleras-tu mon nom au vol de ta prière, et grave et recueilli, invoquant le passé, t'oublieras-tu? Les yeux attachés sur le ciel où flottera mon cœur glacé. Viens à l'heure où le jour tombe, mon cœur tressaillera encore s'il t'entend murmurer « Je t'aime encore, mon ami ». Et si le gai printemps un matin fait éclore sur un tertre désert quelques boutons rosés, porte-le à ta lèvre, ami. On peut encore, au-delà de la tombe, échanger des baisers.
Au nom d'une idéologie fondée sur la notion de la suprématie de la race germanique, du droit absolu de l'Allemagne à l'hégémonie mondiale et de l'affirmation que les races inférieures doivent être détruites ou domestiquées, les nazis s'arrogent dès la prise du pouvoir en 1933 le droit de mettre hors d'état de nuire, en Allemagne même, non seulement les juifs, mais tous les ennemis du régime et d'une manière générale tous les anti-nazis. Tous ceux qui ne pensent pas comme eux, tous ceux qui, au nom de toutes les valeurs traditionnelles de la civilisation, se refuseront à admettre l'existence d'un régime basé sur la haine et le crime, se refuseront à admettre un retour à la barbarie avec toutes ses conséquences.
Pour le nazi, les valeurs humaines ne comptent pas. La conception nationale-socialiste retient la sélection comme un principe naturel et l'homme qui n'appartient pas à la race supérieure ne mérite aucun respect. Le prétendu philosophe du régime nazi, Rosenberg, écrit dans le mythe du XXe siècle
« Les peuples, dont la santé est fondée sur leur sang, ne connaissent pas plus l'individualisme comme critère de valeur qu'ils ne reconnaissent l'universalisme. Individualisme et universalisme, absolument et historiquement parlant, sont les métaphysiques de la décadence. »
Formules creuses qui traduisent le vide culturel du nazisme. Le nazisme est en fait à l'opposé de toute intelligence. Il a la haine de l'intelligence et de la culture. Quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver. La phrase a été prononcée par le général franquiste Queipo de Liano. Elle aurait pu l'être aussi bien par Hitler, Göring, Himmler, Kaltenbrunner, ceux qui furent pendant plus de 10 ans les seigneurs de l'Empire à tête de mort. Jamais de toute l'histoire, depuis que des États organisés existent, on aura vu s'installer à la tête d'aucun d'eux des individus d'une telle ignorance. Pour se maintenir au fait du pouvoir, Les dirigeants hitlériens s'appuient sur un parti qu'ils ont su mener à la victoire politique, un parti à leur dévotion totale, mais où l'ignorance et l'immoralité s'étalent, sans vergogne. Jamais dans un pays organisé, tant de chômeurs non qualifiés, de souteneurs, d'inadaptés, ne sont devenus fonctionnaires ou magistrats, tant d'anciens sous-officiers aigris de la guerre de 1914-1918 ne sont devenus colonels et généraux, colonels et généraux SS. Car le parti donne droit aux plus grands honneurs à condition d'obéir au chef charismatique qui a nom Hitler. Un ancien peintre sans talent, pas même allemand d'origine, dont on sait maintenant qu'il fut indicateur de police pour vivre pendant 10 années de sa vie.
Un homme qui vécut sans femme jusqu'en 1932, c'est-à-dire à 43 ans. Époque où Eva Braun entra dans sa vie, Eva, qu'il aimait surtout voir se déshabiller devant lui, exigeant notamment d'elle qu'elle portât des dessous de cuir aussi fins que possible. À ce malade, toujours cravaté pour que nul ne s'aperçoive du goitre qui enfle son cou, le parti nazi, qui tient bientôt l'Allemagne entière dans ses griffes, doit une obéissance absolue, inconditionnelle. Il est le Dieu nouveau sur terre, le Dieu qui a lui-même écrit sa Bible, Mein Kampf. Chaque soir, et quelle que soit son affectation, dans la Hitlerjugend, le jeune hitlérien devait prononcer la formule rituelle.
Führer, ai-je vécu aujourd'hui dans ton esprit? Toi, à qui nous devons tout?
En Allemagne, pendant le cours de l'année 1933, année de la prise du pouvoir, il y eut 13 000 personnes stérilisées, 212 décapitées à la hache et 280 308 emprisonnées. Ce fut au cours de cette même année 1933 que fut ouvert le premier camp de concentration à Dachau, dans un marais près de Munich. Il fut aussitôt peuplé de communistes allemands et de juifs. On évalue à 600 000 le nombre des Allemands qui y périrent.
Le second camp ouvert fut celui d'Oranienburg, près de Berlin, puis Buchenwald, Ravensbrück, Gross-Rossen, Bergen-Belsen, Neuengamme. Des extensions territoriales ultérieures entraînèrent une prolifération dans les zones frontières. Flossenbürg en 1938, au nord de la Bohême. Mauthausen en 1938 en Autriche. Auschwitz en 1940 en lisière de la Pologne. Majdanek en 1941 à la frontière russe, Struthof-Natzweiler en 1942 en Alsace. Il a fallu attendre des années après l'écrasement de l'hitlérisme pour établir la liste exacte des camps de concentration, chacun des camps principaux ayant d'autres camps secondaires sous leur dépendance. Tel fut l'appareil du crime mis en place pour détruire les ennemis du régime. Les SS ont à cœur d'appliquer au maximum la théorie du Vernichtung Wissenschaft, ou art d'exterminer pour les nécessités du régime. En vertu des lois raciales, Hitler veut que tous les Juifs disparaissent de l'Europe. Selon l'un des objectifs du plan Barberousse, plan de guerre contre l'URSS, 30 millions de Slaves doivent disparaître. Selon Mein Kampf, l'ennemi irréconciliable de l'Allemagne, c'est la France. On sait ce que cela veut dire. On sait le poids des cris et des larmes que coûtera cette volonté de détruire. Encore une fois, écoutons Robert Desnos dans Le Veilleur du Pont au Change.
Je suis le veilleur de la rue de Flandre. Je veille tandis que dort Paris. Vers le nord, un incendie lointain rougeoie dans la nuit. J'entends passer des avions au-dessus de la ville. Je suis le veilleur du point du jour. La Seine se lave dans l'ombre, derrière le viaduc d'Auteuil sous 23 ponts à travers Paris, vers l'ouest. J'entends des explosions. Je suis le veilleur de la Porte Dorée. Autour du donjon, le bois de Vincennes épaissit ses ténèbres. J'ai entendu des cris dans la direction de Créteil. Et des trains roulent vers l'est avec un sillage de chants de révolte. Je suis le veilleur de la poterne des peupliers. Le vent du sud m'apporte une fumée âcre, des rumeurs incertaines et des râles qui se dissolvent quelque part dans Plaisance ou Vaugirard. Au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, ce ne sont que fracas de guerre convergeant vers Paris. Je suis le veilleur du pont au change, veillant au cœur de Paris, dans la rumeur grandissante.
C'est sous la signature de Valentin Guillois que Robert Desnos publia ce poème en 1943, dans la revue clandestine Europe. Lui-même est alors dans la clandestinité et sera arrêté peu de temps après. Une chape de plomb pèse sur l'Europe, pèse sur la France. À Compiègne, centre de triage de déportés, des milliers d'hommes vivent en permanence. Et les convois partent de plus en plus nombreux vers l'Est. Au camp de Drancy sont parqués les Juifs. Drancy, devenu pour les Juifs français l'antichambre d'Auschwitz, et dont la population permanente s'élève à plusieurs milliers depuis les odieuses rafles de juillet 42 opérées par la police française aux ordres des occupants. Drancy, où mourut le poète Max Jacob, qui depuis longtemps, comme le philosophe Bergson avant lui, s'était pourtant converti au catholicisme. Mort déchirante s'il en fut, à inscrire à la honte de l'hitlérisme et de ceux qui, à l'époque, couvrirent ses crimes de leur nom. Rien ne subsiste de son martyre à Drancy en février 44. Malade, il était alors âgé de 68 ans, il avait été admis à l'infirmerie où il devait succomber. De ces derniers moments, nous ne savons que ce que nous en a rapporté Robert Ganzo dans sa préface à 5 poètes assassinés.
Une rescapée par miracle m'a conté les délires de Max Jacob. La couverture qu'il s'arrachait sans cesse, ses jambes nues et maigres, et les terribles mots qu'il répétait sans cesse. Sale juif, sale juif. Jeté dans l'effarement, persécuté heure après heure, il finit hanté. Les mots qu'il prononce ne sont pas ceux d'un reniement, ni de ses compagnons, ni de lui-même. Il ne comprend pas ce que des hommes ignobles lui veulent, et il est à la recherche d'une mortification.
Cette persécution dont il mourut, lui dont la conversion fut parfaitement sincère, il l'exprima dans un poème déchirant, son dernier poème, écrit quelques jours avant son arrestation, intitulé avec une tragique ironie « Amour du prochain ».
Qui a vu le crapaud traverser la rue ? C'est un tout petit homme. Une poupée n'est pas plus minuscule. Il se traîne sur les genoux. Il a honte, on dirait. Non, il est rhumatisant. Une jambe reste en arrière. Il la ramène. Où va-t-il ainsi ? Il sort de l'égout, pauvre clown. Personne n'a remarqué ce crapaud dans la rue. Jadis, personne ne me remarquait dans la rue. Maintenant, les enfants se moquent de mon étoile jaune. Heureux crapaud, tu n'as pas d'étoile jaune. Car depuis le mois de mai 1942, les Juifs sont contraints au port de l'étoile jaune sur le côté gauche de la poitrine. Leur pièce d'identité porte également la mention « Juden ». Ainsi, la tâche sera-t-elle plus commode pour procéder à leur arrestation. Plus de 130 000 Juifs français seront déportés. 3 000 survivront, un peu plus de 2 %. Mais qu'importe les Juifs en tant que tels, on les frappe en premier parce que le nazisme en a fait les responsables de tous les maux et qu'ils sont relativement peu nombreux. L'hitlérisme espère en supplément, et il y réussit hélas parfois à la honte de ceux qui s'y abandonnent, réveiller les haines ancestrales du Moyen-Âge, mais, à travers le juif, le nazisme voit plus loin. Dans son jargon idéologique, il a introduit les mots judéo-marxiste, judéo-capitaliste, judéo-plutocrate. Cela lui permet de frapper partout sur tous ceux qui se refusent à sa domination et les résistants non-juifs, qu'ils soient communistes, gaullistes, chrétiens, athées, ne seront guère mieux lotis que leurs compagnons d'infortune. Sur 120 000 résistants français déportés, 25 000 revinrent et 10 000 moururent dans les années qui suivirent. Il en reste un peu plus de 10 %. Mais notre objet n'est pas ici. Bien loin de nous cette idée d'esquisser une différence entre déportés résistants ou déportés raciaux. Tout ce qui était l'ennemi du nazisme, tout ce qui était voué à l'extermination constituait la résistance. La résistance qui fut l'honneur de l'Europe asservie et piétinée par les soudards de Hitler. La résistance qui ne fut pas seulement celle des armes, mais celle de l'esprit, qui fut la vérité face au mensonge, le respect de l'âme s'opposant au crime, la dignité se dressant devant la honte, l'intelligence contre la bêtise, la pensée luttant contre le chaos.
Cette pensée en voilà un exemple, extrait de l'œuvre du révérend père Victor Dillard, entré dans la Compagnie de Jésus en 1919, et dont la thèse de doctorat portait sur l'évolution de la monnaie française de 1931 à 1938. Il milite ardemment à la tête de la GOC et de la JEC. En 1943, il part en Allemagne rejoindre les ouvriers du STO pour leur apporter les secours de la religion. Activité interdite. Il est arrêté par la Gestapo qui l'interne d'abord à la prison de Wuppertal, puis au camp de Dachau. Il devait y mourir le 12 janvier 1945, après avoir résumé sa vie dans ce mot.
Si je dois y rester, c'était prévu au départ, et c'était offert pour l'Église et la classe ouvrière.
La classe ouvrière était le souci de ce prêtre. Il consacrera aux ouvriers ses derniers écrits intitulés « Suprême témoignage ».
Ni la matière, ni l'outil n'ont de secret pour eux. Ils opèrent des miracles de précision, de fini, de fignolé, qu'il faut avoir surpris pour les croire opérés de main d'homme. Ils ont des diagnostics infaillibles, des coups de main qui valent ceux d'un chirurgien de marque, des habiletés de fleurettiste. Ils sont les artistes, les grands artistes du métal. Je vois encore Meyer, le gros Meyer, l'as de la soudure, que l'on appelait d'un bout à l'autre de l'usine dès qu'il s'agissait d'une opération délicate. C'est lui qui m'a soudé bout à bout des fils de cuivre trop courts sans qu'on puisse découvrir où était la soudure. J'allais dire la cicatrice. Et combien d'autres? Tous ceux-là méritent un respect qu'on ne leur décerne guère en dehors du cercle intime de ceux qui les voient travailler. Ils sont les ignorés, les méconnus sociaux. D'autres, aux mains propres et au col immaculé, se font saluer « cher maître », se pavoisent de rosettes et s'encadrent de publicité. Eux resteront comme ouvriers, inconnus même de leurs femmes et de leurs gosses, de leurs amis, car ils ne sont virtuoses que de la matière, comme si ce travail ne conférait pas une noblesse, comme s'il n'était pas lui aussi création et parfois œuvre de génie. Il faut avoir vécu cela pour comprendre que Dieu s'est fait charpentier.
Voilà ce qu'écrivait, voilà ce que pensait un père jésuite en 1943. À l'époque où se vautrait encore dans la collaboration des hommes qui, par haine de cette même classe ouvrière, avaient vu avec joie Hitler s'installer au pouvoir et l'avaient aidé à s'y maintenir, en applaudissant à l'occupation de la Ruhr, en applaudissant à la non-intervention en Espagne, à l'Anschluss, à la trahison de Munich, en saluant la défaite française en 1940 comme une divine surprise. Mais après avoir évoqué la pensée de ce père jésuite cherchant une vérité humaine dans l'âme de la classe ouvrière, pourquoi ne pas citer un autre penseur, à la recherche lui aussi d'une vérité, car il n'y a pas qu'une vérité, comme le disait l'Hitlerien Rosenberg, la vérité est multiple. C'est de Victor Bach que nous voulons parler, l'un des plus brillants universitaires français. Agrégé de langue vivante à 22 ans, professeur à la faculté des lettres de Nancy, puis de Rennes, puis à la Sorbonne, il occupa à partir de 1921 la première chaire d'esthétique créée en France. C'est un soir de l'hiver 1944, le 10 janvier, qu'eut lieu l'enlèvement de Victor Bach et de sa femme, tous deux âgés de 81 ans. Les Hitlériens ne prendront même pas la peine de les déporter, ils les assassineront quelques heures plus tard au bord de la route, à quelques kilomètres de Lyon. La France était déjà gorgée d'horreur. Ce meurtre prémédité n'en fit pas moins passer un souffle de stupeur. Face au crime, la pensée de Victor Bache n'en survit pas moins, la pensée de cet homme, lui aussi, à la recherche d'une vérité.
Nous croyons d'une foi inébranlable à l'avènement de la justice. Pendant des années, sa pure lumière peut être obscurcie, elle peut être blessée, mutilée, agonisante, mais elle est sûre de renaître aussi infailliblement qu'après la nuit profonde surgissent les jeunes matins. Nous croyons d'une foi inébranlable à des droits innés à l'homme et lui appartenant en tant qu'homme, de quelque race, de quelque nation, de quelque religion qu'il puisse être. Nous croyons d'une foi inébranlable au triomphe de la démocratie. Tant de fois dans l'histoire, la démocratie, même celle chef-d'œuvre de la raison artiste de Périclès, même celle édifiée par les robustes bras de paysans de Rome, s'est écroulée que l'on aurait pu imaginer que c'en était fait d'elle pour toujours. Et toujours, elle a ressurgi indestructible, comme la raison universelle et nécessaire dont elle est l'une des manifestations. Nous croyons d'une foi inébranlable à l'avènement de la paix universelle. Il est inconcevable que ne luise pas le jour où les hommes comprendront qu'il est plus absurde encore que criminel de s'assassiner. Nous croyons d'une foi inébranlable au triomphe de l'amour sur la haine, de l'égalité sur les différences de classe, de la liberté sur la servitude, du jour sur les ténèbres.
Ces phrases, Victor Bache les prononça au congrès de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen en juillet 1938, au Théâtre antique d'Orange.
Mais puisqu'au révérend père jésuite Diard, nous avons voulu associer dans notre piété le libre penseur Victor Bache, pourquoi ne pas leur adjoindre le poète Pierre Unique? Jeune militant communiste, il mourut à 36 ans en 1945. Pierre Unique consacra trop peu de temps à son art, absorbé qu'il était par des tâches nombreuses de journaliste. Mais les poèmes qu'il écrivit suffisent à en faire un des plus merveilleux poètes du début du siècle. Il disparut lui aussi dans la nuit et le brouillard. De Pierre Unique, voici un extrait d'un poème intitulé « Appel », écrit pendant l'été 1944.
Les soirs d'automne sans toi ont jeté leur feu doux. Que de soleil j'ai vu s'éteindre et noircir. Nous étions très haut sur cette falaise, les orages à nos pieds déchiraient les campagnes, et les seigles penchaient vers le sol leurs têtes rousses. Nous marchions, insensibles au décor bariolé, dans la ville inconnue, livrée aux hommes d'armes. Les hautes maisons noires éclaboussées de feu, muettes comme la peur, dérivaient au large. La cavalerie des nuages lourdement chevauchait les crêtes. Çà et là, des dentelles à flanc de roc étincelaient. Et la nuit porta un doigt sur ses lèvres. Au matin, tu serais venu te pencher sur moi. J'ai vécu comme un mort sans vivre ni mourir. Tout le sang de la terre et les larmes et les rayons n'effaceront pas ce pli sur mon cœur. Je chante encore cependant ce qui n'a plus de trait dans ma mémoire. Les beaux bouquets de roses et les regards secrets, les chevaux bondissant dans les prairies mouillées, la mousse sous tes pas, ton genou écorché, les rires, les buissons pleins d'insectes dorés, le silence merveilleux de la mer, l'étoile, l'absence. Épaule contre épaule, il n'a pas fallu que nous fussions heureux. Comme il eût été doux d'attendre.
Il faut donner à chacun son dû. Le plus faible des cris de douleur arrachés à un homme par d'autres hommes s'inscrit à la honte de l'humanité. Mais que dire des milliers et des millions de hurlements de douleur? Le plan Barberousse, rappelons-le, avant même que les hostilités ne soient déclenchées contre la Russie en juin 1941, prévoyait l'extermination de 30 millions de Russes, dont la disparition permettrait aux futurs colons allemands de venir s'installer à leur aise dans les plaines de la Russie blanche ou en Ukraine. Les Hitlériens ne furent pas loin de réaliser ce fabuleux génocide. 18 millions de soviétiques périrent de 1941 à 1945. Parmi eux, 12 millions de civils, femmes, enfants, vieillards. Mais ce ne fut pas en abandonnant leur sol au nazisme, mais au contraire pour planter le drapeau de la victoire à Berlin sur le Reichstag en ruine. Aucun pays au monde ne sacrifia autant de ses citoyens pour assurer la victoire sur le nazisme. Seule la Pologne et la Yougoslavie peuvent proportionnellement lui être comparées. 1 700 000 morts pour la Yougoslavie, le dixième de cette population intrépide et exemplaire.
La France ne peut faire état du même nombre de victimes, mais il faut reconnaître que sur le plan de l'intelligence et de la pensée, les pertes de la France furent considérables, et que dans ce domaine, malheureusement pour nous et malheureusement pour l'humanité, nos pertes peuvent se comparer à celles des États qui ont le plus souffert. Hitler voue une haine mortelle à la France. Ce malade, ce déréglé, déteste le genre de vie français, le rôle que la femme joue dans l'existence du français. La pensée française le hérisse. Lui qui s'essaya à la peinture, il hait la peinture française, son brillant, ses audaces. Avant même la prise du pouvoir, dans les autodafés de livres organisés par Goebbels et Rosenberg sur l'ordre de Hitler, on ne brûle pas seulement les œuvres de Thomas Mann, de Goethe, d'Einstein, les partitions de Mendelssohn ou de Schumann, on brûle aussi Zola, Romain Rolland, Anatole France, Proust. En mai 1933, à Munich, on brûlera également des traductions d'ouvrages russes, notamment des romans de Tolstoï, de Dostoïevski et des poèmes de Pushkin. Il faut nettoyer par le vide, dit Hitler. Ce qu'il réserve à la France, il ne le cache pas. Avant même la déclaration de guerre, lorsque le 22 août 1939, il convoque ses généraux à l'Obersalzberg, en présence de Göring, Beck et Kesselring. Il leur fait part de ses dernières décisions concernant l'attaque sur la Pologne. Ses paroles ont été notées par ses sténographes et confirmées par la secrétaire Frau Wolf. Monsieur Ray Petitfrère, haut fonctionnaire belge, en fait mention dans son livre intitulé « La mystique de la croix gammée ». Elles valent d'être retenues.
« J'ai donné l'ordre à mes unités tête de mort d'exterminer sans merci hommes, femmes et enfants. Ayez la mentalité des seigneurs du monde et ne voyez dans les peuples que des singes qui demandent à être fouettés. Soyez durs, sans pitié, agissez vite et brutalement. » Les citoyens de l'Europe occidentale doivent frémir d'horreur en apprenant ce que vous avez fait. C'est la manière la plus humaine de faire la guerre, car elle l'a raccourcie.
L'ordre fut exécuté. Les unités tête de mort assassinèrent sans merci, avec un tel luxe de cruauté qu'après la campagne de Pologne, l'amiral Canaris, rentrant à Berlin, se dira horrifié de ce qu'il a vu.
8 mois plus tard, ce sera sur l'Europe occidentale que les armées hitlériennes déferleront. Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France. Mais stupéfait de sa victoire éclair sur l'ennemi héréditaire, Hitler ne se livrera pas d'emblée et au grand jour à des exactions semblables à celles commises sur la Pologne. Il a besoin des ressources économiques de la France. C'est pourquoi ce ne fut que lentement, insidieusement que les SS, l'armée noire du Reich, et la Gestapo avec le colonel Knochen, puis le général Oberg, s'installeront en France. De temps en temps, des affiches placardées sur les murs de Paris annoncent des exécutions de résistants ou d'otages. En fait, les Parisiens ne sauront jamais que certains mois des années 1942 à 1943 ont fusillé jusqu'à 20 patriotes en moyenne par jour au Mont-Valérien. Les Parisiens ne sauront jamais non plus le nombre de trains bourrés de déportés qui partiront vers l'Allemagne, de plus en plus nombreux. 3 convois en 1940, 19 en 1941, 104 en 42, 257 en 43, 326 du 1er janvier au 25 août 44, soit pour l'année 1944, 10 convois par semaine. Ainsi, le nazisme pense vider la France de sa substance vivante, détruire ceux qui se refusent à collaborer, mêlant dans un même martyr patriotes armés et patriotes de la pensée.
La liste des intellectuels français serait trop longue à donner. Mais il n'est pas une spécialité de l'esprit, une orientation de la pensée qui n'eût à payer son tribut à la barbarie nazie. Physicien, chimiste, biologiste, savant de toutes les disciplines, philosophe, sociologue, artiste de tout genre, peintre, sculpteur, musicien, romancier, poète, juriste, avocat, théologien, tous unis dans la même mort avec les hommes d'action, résistants armés ou militants, pour redonner sa dignité à leur patrie momentanément vaincue. Georges Brua, Henri Maspero, Denis Clairoin, Benjamin Fondane, Marc Bloch, Irène Némirovski, Maurice Albax, gendre de Victor Bache, dont nous venons déjà de parler, les avocats Pierre Masse, Jacques Renouvin, Pierre Arrigui, les médecins Florence, Quenouille, d'autres professeurs encore, Burgard, René Lévy, Raymond Nave, des prêtres aussi, comme le père Jacques, aumônier d'un maquis, le théologien Georges Duret, l'abbé Jean de Maupéou, dont nous reparlerons plus loin, la supérieure d'un couvent de Lyon, l'instituteur Georges Lapierre, fondateur de l'école libératrice.
Georges Brua, directeur de l'école normale supérieure où se forge une grande part de l'élite de l'intelligence française, auteur d'un traité de polarimétrie, d'un traité de physique générale, d'ouvrages sur le soleil, les étoiles, les planètes, mort d'épuisement à Sachsenhausen, le 31 décembre 1944.
Benjamin Crémieux, que ceux-là même qu'il combattait la plume à la main, estimait pour sa forte culture, son esprit nuancé, sa large ouverture de cœur. Sémite, mais dont les origines occitanes remontaient au berceau de notre première civilisation, tout était lumière et chaleur dans ce languedocien de Narbonne. Cet intellectuel rayonnant, arrêté à Marseille au printemps 1943, blessé au cours de son arrestation, torturé, il a une main brisée quand on le convoie à Paris, mourut d'épuisement à Buchenwald.
Nous avons choisi dans XXe siècle un extrait des pages qu'il consacre à Valérie Larbeau parce qu'à travers ses phrases, Benjamin Crémieux nous semble avoir projeté l'essentiel de sa pensée.
À la base de l'humanisme et de l'européanisme de Larbeau, il y a une idée impériale. Le sentiment d'une civilisation commune aux héritiers de l'Empire romain, vers laquelle s'efforcent les coloniaux et même les barbares. Les multiples expressions de ce génie impérial, Larbeau les a poursuivies à travers les pays d'Europe et du Nord africain, et dans les textes, pour lui sacrés, de l'Antiquité grecque et latine, dans les livres français, espagnols, italiens, anglo-saxons. Larbeau concilie l'humanisme antique et les humanités modernes. Il réussit à les relier, à les fondre.
Une des hontes du nazisme, s'ajoutant à toutes les autres, c'est d'avoir frappé indistinctement hommes, femmes et enfants, des familles entières. Les monstres se faisant une sorte de précepte juridique de la notion de responsabilité collective. Symbole de l'esprit rétrograde, il haïssait tout spécialement chez la femme l'intelligence inévitablement marquée par un esprit d'émancipation. Inconsciemment, sans doute se rendait-il compte qu'il n'y aurait jamais d'émancipation totale de l'humanité sans émancipation de la femme. Pour détruire plus profondément la pensée, il frappe les femmes de pensée.
Ainsi arrêteront-ils Irène Némirovski, qui mourut avec son mari, sans doute à Auschwitz. Irène Némirovski, d'origine russe, romancière née, qui nous donna tant d'œuvres remarquables. L'enfant génial, le malentendu, l'inoubliable David Golder, écrit à 25 ans. Sorte de réplique moderne au père Goriot de Balzac et à l'homme à la cervelle d'or d'Alphonse Daudet. Le pion sur l'échiquier, Jézabel. La proie, œuvre exquise par la délicatesse du ton, la bonté, la pudeur, la sensibilité, qualité dont témoigne cet extrait de son dernier roman intitulé « Deux ». Roman écrit en 1939 à 36 ans et qui relate la vie d'un couple de très jeunes amoureux.
Le printemps finissait. L'année la plus heureuse de sa vie allait finir pour Marianne. Déjà, certaines heures étaient insensiblement moins suaves, comme une tendre et joyeuse musique qui peu à peu vous attriste et vous lasse. Certains jours maintenant s'infiltraient d'ombre. Les moments de joie pure étaient dépassés. On atteignait cet instant où le bonheur et la tristesse forment un double confluent et désormais seront aussi étroitement mêlés l'un à l'autre que les deux fleuves qui ont confondu leur cours. Mais que la vie était encore belle, comme Marianne aimait les nuits de bal, et mieux encore, les retours au petit matin. On sortait d'une maison brillante et chaude. Dehors, il pleuvait. Le jour se levait à peine. La rue était triste, sombre, sordide. Une vieille affiche déchirée s'en allait en lambeaux au vent du matin. On avait cessé de danser, mais en vous, le sang dansait encore. On s'appuyait aux bras sur la poitrine des jeunes hommes qui vous accompagnaient. On ne pouvait pas se séparer. Et les êtres paraissaient si simples, immuables, un tel intelligent, un tel sot, celle-ci coquette. Mais fixés à jamais, ils ne bougeraient plus. Cependant, on se sentait à l'aube, à la veille de toute chose. Demain, tout serait meilleur encore. Mais les journées passaient, la vie passait, et le meilleur ne venait pas.
Après la libération, les deux filles d'Irène Nemirovski, qui avaient échappé au martyre de leurs parents, reçurent la médaille d'or de l'Académie française dédiée à la mémoire de leur mère. Dans la boue, la misère, les souffrances et l'ignominie des camps, Denise Clairoy, qui fut sans doute la meilleure traductrice de langue anglaise en France, puisa le courage d'écrire quelques poèmes par bribes, échappant à la surveillance d'une gardienne SS. Voici l'appel, écrit à Ravensbrück.
Le ciel est noir, la terre est noire, dur est le gel, lourd est mon cœur. Tristes victimes expiatoires nourries de haine et de rancœur, nous attendons. L'aube blafarde sans cesse creuse dans nos rangs. Nul sang ne ranime et ne farde ces visages de chiens errants. Reverrons-nous ces jours qu'en rêve, nuit et jour, nous imaginons. Visages aimés, heures brèves, un feu, un pain, une maison. Se souvient-on encore d'elle, celle qui paie argent comptant pour que la vie soit libre et belle? Et que la France est un printemps. Et si nous revenons un jour, comme un troupeau de spectres hâves, affamés de joie et d'amour, serons-nous les tristes épaves qu'on enfouit sous un sable lourd?
S'il est juste d'affirmer que tous les crimes du système nazi sont à mettre en premier au compte des dirigeants du régime, il n'en est pas moins utile de rappeler comment furent formés les exécutants directs de ces crimes. Un jour, Heinrich Himmler, visitant un camp de concentration, s'évanouit devant le spectacle qu'il avait sous les yeux. Le maître du crime n'avait pas assez d'imagination, en effet, pour concevoir comment s'opéraient les crimes qu'il avait pourtant ordonnés. Comme chef suprême des SS, il était pourtant le créateur des Ordensburgen, ou écoles de formation situées dans des bourgs isolés comme à Wervelsburg en Westphalie, à Sonthofen en Bavière, à Vogelsand en Rhénanie, à Kreuzinsi en Poméranie. Ce sont de ces écoles que sortaient les cadres SS, ceux dont la mission était justement d'anéantir, ceux que tous les penseurs que nous honorons aujourd'hui virent se dresser devant leurs yeux comme autant de démons au dernier jour de leur vie. C'était assez brut que les déportés avaient directement à faire en entrant dans les camps de concentration. Assez brut à qui l'on jetait indifféremment en pâture des militants ouvriers intègres et dévoués ou des professeurs de faculté. Ce furent des brutes de ce genre qui attendirent notamment Benjamin von Dahn à la porte de la chambre à gaz de Birkenau, dans laquelle ils le poussèrent à coups de botte. De Benjamin von Dahn, philosophe et poète, auteur de La conscience malheureuse, de Titanic, du Faux traité d'esthétique, d'Ulysse, où, bien que le poète l'eût écrit en 1933, on trouve dans certains vers comme une préfiguration de son destin.
J'étais un grand poète né pour chanter la joie, mais je sanglote dans ma cabine. Des bouquets d'eau de mer se fanent dans les vases. L'autre pèse si lourd dans ma valise. Voici ta vie immense, mais si long. Nous étions écrasés par cette lumière inhumaine. Pourquoi chanter à tue-tête, gorge pleine? Qui ne demande qu'à chanter? Si le château était hanté, donne de mon cœur, mène au Père-Lachaise. L'éternité est là, œil calme du temps mort. Mais le fleuve, est-ce arrivé vraiment que d'arriver au port? Armand, qui fait sauter les ponts. Tu sais nager, je sais. Si les dieux s'amusaient à nous prendre pour cible. Tu es entré vivant aux mains du Dieu terrible. Et jusque dans la mort, tu es resté vivant.
Ce furent aussi d'autres brutes formées dans les écoles spéciales des SS qui attendaient Pierre Camp, professeur de philosophie à Montluçon, l'un des adjoints de Jean Moulin. Pierre Camp, mort en déportation. De même, Maurice Bourdet, de la radio française, mort à Neuengamme. De même, Henri Maspero, le meilleur spécialiste français de l'histoire de l'Orient et de l'Extrême-Orient, mort à Buchenwald. De même, Jean Brochon, mort à Dora. De même, Maurice Alvax, l'un des maîtres de la sociologie moderne, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, puis à la Sorbonne, titulaire de la chaire de psychologie sociale au Collège de France. Son œuvre est immense. Parmi ses écrits, citons Leibniz, La classe ouvrière et les niveaux de vie, Les origines du sentiment religieux, La mémoire collective, Esquisse d'une psychologie des classes sociales. Qu'auraient bien pu comprendre à ses œuvres les brutes qui le reçurent à Buchenwald. Mais tous ceux qui ont connu Maurice Alvax se souviendront toujours de sa pureté d'homme de science, du charme et de la séduction de sa pensée.
Dans un livre remarquable qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont, intitulé « Quand les alliés ouvrent les portes », livre auquel cette émission s'est souvent référée, l'auteur du livre, Madame Olga Wormser-Migaud, évoquant les professeurs morts en déportation, écrit « Toute une université, toute une académie ». Ce furent par centaines, en effet, que des professeurs français, dont plusieurs figuraient au sommet de la pensée contemporaine, disparurent dans la nuit et le brouillard des camps nazis. Et nous ne parlons pas ici de ceux qui, eux aussi victimes de la barbarie hitlérienne, tombèrent sous les balles ennemies sur le sol même de la France, comme le germaniste Jacques Decour, le doyen René Gosse, massacré au bord d'une route, ou cet autre universitaire, Valentin Feldman, qui au Mont-Valérien, s'adressant en ces termes au bourreau qui allait le fusiller, « Imbécile, c'est pour vous que je meurs. »
Par centaines aussi, les prêtres périrent. Nous avons déjà cité le révérend père Victor Diard pour l'associer dans une même universalité avec le libre penseur Victor Bache et le poète Pierre Unique. Mais la liste des hommes d'église a été longue aussi, qui souffrirent le martyre des bangs hitlériens. L'abbé Bernard Ferrand assassiné au Struthof, le père Étienne Girand, le révérend père Aimé Lambert, théologien à la vaste érudition, guillotiné le 3 décembre 1943 à la prison de Wolfenbüttel, avec 9 autres patriotes français, en chantant la Marseillaise. Le jeune et délicieux abbé Jean de Maupéou, chanoine épiscopal à Angers, qui au camp des Bensi poussa l'amour de son prochain jusqu'à partager la moitié de son maigre morceau de pain avec des malades. Ramené au camp de Mauthausen, il fut jugé inapte au transfert vers Dachau, où tous les prêtres furent rassemblés dans les derniers mois de la guerre. Ses dernières paroles sur le grabat de Mauthausen furent à l'adresse d'un ami.
« Tu as raison. Nous sommes dans un traquenard. Et Dieu a besoin d'une âme. »
Le 4 novembre 1943, par une journée grise, un ciel où roulent des nuages couleur de lave, un homme déjà âgé, au camp de Drancy, assiste au départ d'un convoi de déportés. Il s'écarte, dans le coin d'une pièce, accroupi sur un lit, il écrit ces quelques vers.
« Dans des fourgons sans feu, sans lumière, sans paille, sans air, poignets liés, on les vit repartir. Tandis que leurs geôliers près d'eux faisaient ripaille, on les a vus partir. Les fronts sont découverts lorsque le train s'ébranle. Tout se tait. De pleurer, l'enfant même a cessé. Un chant vengeur éclate, éblouit le silence. Un souffle divin a passé. Le jour est arrivé de gloire et de souffrance, car l'étendard sanglant est levé. Mais le cœur du vaincu, son adieu, son salut à la France, soufflette le front du vainqueur. Amour sacré, toujours de la mère patrie, soutiens-les dans l'exil, conduis leurs pas errants, que la victoire accourt, ô liberté chérie, sur tes ennemis expirants.
L'homme déjà âgé, il a 65 ans, qui rédige ses vers, n'est pas un poète. Bien que son âme et son cœur soient ouverts à la poésie, il le sait. Il s'agit plus pour lui d'un exercice de l'esprit que d'un poème. Et ce poème constitue un témoignage déchirant. Car l'homme qui l'a écrit est l'un des grands maîtres de la médecine contemporaine et son nom rayonne dans le monde entier. Joseph Lévy Valency. Professeur agrégé de neuropsychiatrie en 1929, il se consacrera non seulement à la neuropsychiatrie, mais à l'histoire de la médecine, chaire dont il fut nommé successivement professeur titulaire à la faculté de médecine de Paris. En 1942, ses collègues lui confient une troisième chaire, celle de pathologie mentale. Mais il est déjà pourchassé par les hitlériens. Il part en zone sud, où il est arrêté au cours d'un déplacement. Il est transféré à Drancy. C'est là qu'il écrivit le poème que nous venons de lire, le 4 novembre 1943. Quelques jours plus tard, le 20 novembre, il est lui-même déporté à Auschwitz, où il sera gazé dès son arrivée. Joseph Lévy Valency peut être considéré comme le symbole de la pensée médicale détruite par le nazisme. Mais il convient d'ouvrir ici une place à part au rôle d'ensemble que jouèrent les médecins déportés dans les camps de concentration. Nous y reviendrons encore dans une prochaine émission. Des infirmeries ou revires avaient été aménagées par les SS dans les camps et les déportés médecins en assuraient le fonctionnement.
Dans l'esprit des SS, la tâche du médecin ne consistait pas tant à soigner le malade ou le blessé qu'à établir un taux de mortalité compatible avec les possibilités d'incinération des crématoires. Les médecins n'en jouèrent pas moins d'une façon admirable leur rôle médical, maintenant notamment au repos les déportés qui seraient morts inévitablement s'ils avaient repris le travail. Mieux traités également que l'ensemble des déportés, ils mirent toute leur vitalité et leur influence au service de leurs compagnons d'infortune, et ce fut presque toujours autour d'eux que se greffèrent les noyaux de résistance qui se constituèrent dans les camps. Ce fut le cas à Ebensee, du professeur Gilbert Dreyfus et du chirurgien François Wetterwald, dont nous reparlerons dans une prochaine émission. Beaucoup d'entre eux survécurent avec la fierté d'avoir sauvé des centaines de vies humaines. Mais puisque nous venons de parler du camp d'Ebensee, nous nous devons de citer la haute figure du professeur René Quenouille de Paris et de lui associer cette autre haute figure, celle du professeur Florence de Bordeaux. Le professeur Quenouille fut le premier médecin attaché au revire d'Ebensee. Et d'un lieu jusque-là horrible, d'un lieu d'épouvante, il réussit par son autorité calme, sa fermeté devant les SS, sa vaste culture, à faire une véritable oasis de repos dans l'ignominie de ce bagne perdu dans le Tyrol. En juillet 1944, le professeur Quenouille fut transféré à Neuengamme, où il retrouva le professeur Florence. Et l'enfer des deux hommes commença. L'enfer qui devait se terminer par leur mort à tous deux.
À Neuengamme, en effet, existait un centre d'expérimentation scientifique appelé Détachement Haßmeier, du nom du médecin SS qui dirigeait le centre. L'objet du centre était d'inoculer différents bacilles à des enfants, utilisés comme cobayes, pour juger de la valeur des vaccins. Et le pire, peut-être, c'est que les médecins SS avaient choisi les deux professeurs français, Quenouille et Florence, pour soigner les enfants. Soins inutiles, car on devine que tous les enfants mouraient inévitablement tôt ou tard. Pendant 8 mois, les hommes de cœur, qu'étaient Quenouille et Florence, se penchèrent avec tendresse sur de malheureux innocents pour tenter d'adoucir leur sort. Personne ne survécut à ces prétendues expériences. Ni les cobayes, ni Quenouille et Florence, les « soigneurs », comme les appelaient les SS. De cette situation diabolique, on ne connaît que ce qu'en a dit le médecin SS Trzebinski au procès de Hambourg, lorsqu'il relate l'évacuation du camp de Neuengamme. Bien que Trzebinski cherche à minimiser le rôle des SS, il n'est pas de pire injure à la pensée que les déclarations de ce monstre. Voici le commentaire par Olga Wormser-Migaud et Henri Michel de la déposition de ce bourreau.
En mars 1945, l'ancien commandant d'Auschwitz et le docteur Heuss sont venus à Neuengamme. Pauli, c'est le commandant de Neuengamme, leur demande ce qu'il devra faire si les alliés arrivent. À ce moment, on ne parle pas de tuer. Vers la fin d'avril, Thumann, c'est un chef SS, arrive un jour l'air consterné. « Tiens-toi bien, dit-il, j'ai quelque chose de peu joli à te dire. L'ordre est arrivé. Tu dois tuer ou empoisonner les enfants et leurs soigneurs. » Je considérais immédiatement cet ordre comme une catastrophe pour ma carrière, déclare Trzebinski. Et je refusais en disant que je n'avais pas le matériel nécessaire. Thumann s'en va, mais Trzebinski est appelé chez Pauli qui paraît furieux. « Comment, docteur ? J'apprends que vous êtes trop lâche pour tuer ces enfants ?» Trzebinski déclare qu'il perdit patience et qu'il dit au commandant « Qui est plus lâche, moi ou Thumann ?» Pauli répond « L'ordre est formel, il faut tuer le détachement Haßmeier et vous devez les tuer vite, n'importe comment, je m'en fous. Ce soir, vous procéderez à l'exécution à Boulen-Hussendam. C'est eux qui a envoyé l'ordre. » Sauver les enfants était chose impossible, dit Trzebinski. Et leur injecter du poison était également impossible, car ils ont les artères trop petites. Et l'accusé fait la description du chargement dans les camions. Les enfants souriant, croyant partir pour un beau voyage, alors qu'ils roulaient vers la mort. Devant l'école de Boulen-Hussendam, tout le monde descend. Ce sont d'abord 6 Russes qui devaient immédiatement être pendus dans la cave de la chaudière du chauffage central. Ensuite, les infirmiers et les 2 médecins français, Quenouille et Florence, qui allaient être pendus dans une cave. Enfin, les 20 enfants sont conduits dans un abri de bombardement installé dans les sous-sols. Srebinski reste avec eux pour les calmer. Il leur dit qu'avant le voyage qui allait les libérer, ils allaient être piqués contre le typhus. Les malheureux petits tenaient serrés dans leurs bras leurs jouets et le petit ballot qui contenait tous leurs pauvres biens. Ils s'assoient sur les bancs et, dans un allemand petit nègre, la plupart avec un fort accent polonais, ils parlent du voyage qu'ils vont accomplir. Ils ont de 5 à 12 ans. Il fait nuit. Peu après, l'ordre vient pour les enfants de se déshabiller. « N'ayez pas peur, dit le docteur, cette piqûre contre le typhus n'est rien du tout. » La porte de la grille s'entr'ouvre, Fram fait signe au docteur et lui murmure « Je dois pendre les enfants. Il n'y a plus rien à faire pour les sauver. » Alors le docteur, toujours d'après ses dires, ne pense plus qu'à une chose, adoucir les derniers moments des enfants. L'un après l'autre, il les pique à la morphine, 0,2 pour 20 grammes, auquel il ajoute 100 grammes d'eau distillée. 2 escabeaux sont apportés. Sur l'un sont les seringues et quelques aiguilles, car pour que l'illusion soit complète, le médecin exécuteur change d'aiguille à chaque victime. Sur l'autre, l'enfant se couche sur le ventre avant d'être piqué à la fesse. Au fur et à mesure qu'un enfant est injecté, il retourne dans l'abri, se roule dans une couverture en attendant le sommeil. Certains, croyant que c'était fini, se rhabillent. On leur dit de se déshabiller de nouveau, car avant de s'embarquer, ils doivent prendre un bain. Petit à petit, les enfants s'endorment. Pendant ce temps, les bourreaux pendent les adultes. À ce moment-là, Srebinski prend un ton pathétique. Est-il vraiment ému ou joue-t-il la plus sinistre comédie ? Ce que je vais vous raconter maintenant est monstrueux et effrayant, mais pourtant je dois le dire. Toute la salle, des accusés au président, du public aux gardes, est suspendue à ses lèvres. Des femmes pleurent. Les enfants se sont en effet seulement endormis. Ils ne sont pas morts. Alors Fram en emmène 10 et Trebinski le suit dans une cave où une corde à nœuds pend à un crochet. Fram passe le cou d'un petit corps tout endormi dans la boucle et s'accroche à lui avec tout le poids de son propre corps afin de rater la mort. Trebinski dit qu'il s'est senti mal. Il quitte la cave et va dans la cour prendre l'air. Après une demi-heure, il revient. Dans l'abri, des bambins qui se sont réveillés lui demandent quand le bain sera prêt. Il revient dans la cave où le corps inerte d'une petite fille pend à un crochet. Dans un coin gisent déjà 3 cadavres. Plus loin, dans la cave, à côté de la chaudière, gisent les dépouilles des docteurs Florence et Quenouille. Les enfants ne dorment toujours pas. Alors Srebinski les pique une deuxième fois. Cette fois-ci, tous s'assoupissent. À l'aube, le camion vide ramène à Neuengamme les exécuteurs. Srebinski ne parlera plus jamais de cette épouvantable affaire à personne, sauf à Pauli, à qui il a dû rendre compte. Mais il lui cachera que les 20 enfants, parmi lesquels les petits Français Georges et Jacqueline, avaient été pendus par un autre que par lui.
Qui étaient les petits Georges et Jacqueline? Nul ne le saura jamais. On se perd en suppositions, mais ils sont le symbole de la pureté devant lequel le cœur doit battre avec une éternelle pitié. Ils sont symboles de pureté comme sont symboles de droiture et de dévouement les professeurs Quenouille et Florence qui les accompagnèrent au supplice. Et l'on imagine sans peine avec quelle tendresse désespérée des hommes bons comme étaient Quenouille et Florence, des hommes qui dispensèrent toute leur vie autour d'eux un climat d'amitié, ont dû veiller tout particulièrement sur le sort malheureux des petits Georges et Jacqueline, sans se désintéresser pour autant du destin des autres petites victimes de la barbarie nazie. Dans ce dernier dialogue qui s'échangea entre 2 médecins parmi les meilleurs, entre 2 hommes de pensée pour qui la formule de Rabelais devait rester éternellement vivante, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et deux petits êtres innocents, on peut voir la condamnation implacable de l'hitlérisme, de ce monstrueux système qui n'avait d'autre but que de détruire notre civilisation, non seulement dans ce qu'elle avait d'achevé, mais aussi dans son avenir. Un système qui tue systématiquement la pensée ne peut rien respecter de ce qui est l'homme, pas plus son présent que son passé, que son devenir. Le nazisme sera la plus grande honte de l'univers civilisé. On en étudiera longtemps les causes et les origines. On lui trouvera des responsables. L'essentiel est de tout savoir de lui pour qu'il ne se renouvelle jamais sous aucun ciel.
Aussi atroce qu'elle fut, aussi indigne de l'homme qu'elle restera, la guerre de 1914-1918 ne connut pas d'atrocité comparable à celle que le régime hitlérien imposera à l'Europe. Des intellectuels en nombre immense périrent, certes, au cours de la Première Guerre mondiale, mais du moins étaient-ils des hommes opposés à d'autres hommes, se mêlant les uns aux autres dans un même destin. Il ne fut jamais question de vieillards, de vieux savants, d'enfants innocents livrés sans défense, anéantis ignominieusement dans la nuit et le brouillard des bagnes hitlériens, réduits en cendres dans les fours crématoires. Mais s'agit-il véritablement de la pensée détruite? Des pensées furent certes détruites. La pensée demeure. Elle a survécu à Hitler comme elle a survécu à toutes les barbaries. Elle appelle tous les hommes à la vigilance. L'humanité doit toujours rester aux aguets, à l'écoute de tous les cris poussés par un homme torturé, par un enfant qui souffre, par un vieillard qui meurt dans l'abandon. Ce devrait être cela, et pour toujours, la leçon des camps, le message des martyrs. Mais comment le faire mieux sentir qu'en employant les mots de Maître Paul Arrighi, qui avant de devenir bâtonnier des avocats de Paris et le président du réseau du souvenir, connut lui aussi l'enfer de Mauthausen et des Bensi, où mourut son fils.
Comprendra-t-on leur message? Seuls les déportés peuvent comprendre le régime concentrationnaire. Quelle que soit l'exactitude des récits qui ont été faits, l'atmosphère des camps et la mentalité des détenus sont impossibles à recréer complètement. Elles échappent à ceux qui ne les ont pas connues. Jamais de mémoire d'homme, pareil mécanisme aussi minutieux n'avait été construit. Jamais être civilisé n'avait en un instant le temps de franchir la porte du camp, subi un tel bouleversement de l'esprit et du corps. Jamais un homme n'avait réalisé un aussi subi et brutal anéantissement de toutes les valeurs sur lesquelles son existence lui paraissait établie. Droit à la vie, respect de la valeur humaine. Puisque, aux yeux des Allemands, le régime concentrationnaire était fondé sur la nécessité pour le régime hitlérien de se protéger, de se garantir de ses ennemis, il convenait donc de retrancher de l'humanité tous les éléments néfastes au régime. Pour cela, il fallait enlever aux concentrationnaires non seulement la vie, mais aussi tous les attributs proprement humains. La pensée, la dignité humaine. En ravalant ses ennemis au rang d'êtres inférieurs, analogues aux animaux, le nazisme assurait aux seuls Allemands la qualité d'homme et, par suite, consolidait son triomphe et assurait à jamais sa domination. Mais il a suffi que les revenants de l'enfer viennent dire que, chez certains déportés de tous les milieux, de toutes origines, s'implanta très vite la volonté de résister. Il a suffi que la liberté leur soit apparue la valeur clé, que l'homme ait lutté à la fois contre la dégradation et pour la liberté, pour que, sans alléger le poids des millions de cadavres sur la conscience humaine, l'homme du néant, le nazi, ait été vaincu dans le camp même.
France Culture vient de vous présenter Le monde concentrationnaire, témoignages et documents pour servir l'histoire. une suite d'émissions composée par Yves Darrier et Alain Trutat.
Aujourd'hui, par Paul Tillard, La pensée détruite. Choix de texte écrit par des déportés morts dans les camps de concentration. Ces textes étaient lus par Louis Herbessier, Michel Bouquet, Pierre Constant, Pierre Leproux, Sylvia Montfort, Jean Negroni, Nathalie Nerval et Renaud Marie. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Jean-Louis Guérin. Assistante, Lucette Aléo. Réalisation, Alain Barou.
C'était le 10e de 27 épisodes de la série Le Monde Concentrationnaire, diffusé pour la première fois le 7 mai 1965 sur France Culture. À suivre.